Alors, vous avez déjà eu un enseignement bien complet, donc ça se suivra et nous serons édifiés comme cela ensemble. Voilà, oui, mais ça va aller. Avec pour certains d'entre vous qui vont avoir une piqûre de rappel, je dirais, puisque je vois que Sylvain et Limine sont avec nous, et que j'ai décidé de reprendre le message que j'avais apporté à Rumingem et en visite, et que j'ai d'ailleurs apporté aux frères et sœurs en Creuse, qui est tellement, tellement simple en fait, et tellement fondamental de trouver ce que l'apôtre avait découvert, et ce qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire la douceur. Tout simplement, qui est un des fruits de l'esprit mentionné donc par l'apôtre également. En fait, dans un sens, ça commence un petit peu mal dans le passage que je vous lis au départ, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Donc, que trouvons-nous dans cette prière de l'apôtre, puisqu'il prie les Corinthiens, hein. Je vous prie. Alors, que trouvons-nous dans cette prière adressée aux chrétiens? Eh bien, premièrement, une identification personnelle avec la douceur de Jésus-Christ, puisqu'il s'adresse à eux par la douceur et la bonté de Jésus-Christ. Mais aussi, une éventuelle contrainte à sortir de cette base. Je vous prie de ne pas me forcer à recourir à la hardiesse. Ceci étant, il n'oppose pas, par exemple, brutalité à douceur ou bien violence à douceur, mais il emploie le terme de hardiesse, parce que, tout simplement, sa douceur qui était réel, était interprété par les Corinthiens comme une faiblesse, comme une lâcheté même. C'est ce que nous trouvons au verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présents en parole, en personne, il est faible et sa parole est méprisable. C'est ainsi que certains considéraient l'apôtre. En fait, cet apôtre avait un rapport très particulier avec l'église de Corinthe, puisqu'il y était resté, d'après le livre des Actes des Apôtres, 1 an et 6 mois à enseigner la parole. Et il y était, on peut dire, comme un père. C'est ainsi qu'il se présente aux Corinthiens dans sa première épître, et à ce titre il évoque aussi la verge pour corriger la prétention de quelques-uns. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 14 à 21. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, on en trouve beaucoup d'ailleurs des maîtres actuellement, 10 000, on peut certainement en trouver sur le net. Vous allez trouver beaucoup, beaucoup de maîtres, de personnes qui enseignent. Mais quelqu'un qui vous amène et qui est dans une relation personnelle avec vous comme un père avec son enfant, là, ce sera difficile à trouver. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Donc l'apôtre évoque quand même aux Corinthiens la verge selon les coutumes d'éducation de cette époque-là. Il ne s'agit pas là de faire violence, mais d'employer un moyen qui était habituel pour éduquer l'enfant, le réprimander. Nous n'en sommes plus là dans notre société. Mais l'idée, c'est donc de corriger. Et voilà, il évoque cette possibilité. Mais le fond de son cœur, de sa pensée, de sa relation avec les chrétiens, c'est la douceur. Et il évoque d'ailleurs cette relation d'un père avec ses enfants. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il évoquera également la relation d'une mère avec ses enfants. Il pouvait, on peut dire, avoir les deux approches avec les fidèles. Il les connaissait personnellement, il était attaché à eux, et il avait une relation fondée sur la douceur de Jésus-Christ. Ben, on peut poser cette question directement à chacun d'entre vous. Quel est votre fond dans vos rapports les uns avec les autres? Qu'est-ce qui vous anime profondément lorsque vous êtes en relation? L'apôtre Paul, lui, pouvait prendre à témoin le disciple Timothée, qui le connaissait très très bien. Et dans 2 Timothée, donc chapitre 3, verset 10, il peut lui dire: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets ou mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc Timothée pouvait rendre compte, parce qu'il avait vécu avec l'apôtre, du caractère de douceur et de patience que l'apôtre entretenait. Alors pour nous-mêmes, comment recevoir et entrer dans la véritable douceur? Eh bien, la première chose, bien entendu, c'est de connaître notre maître, connaître le caractère de Jésus-Christ. Par la douceur de Jésus-Christ, commence par dire l'apôtre. Jésus s'est présenté au peuple comme un roi plein de douceur. Et sa manière d'arriver, on peut dire, à la conquête de Jérusalem, eh bien, ça a été d'être monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme le prophète Zacharie l'avait annoncé. Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un ânon et non pas un cheval. Toute la différence. Tous les conquérants de l'époque, et encore maintenant, tous les conquérants prenaient comme monture le cheval, avec sa fougue, avec sa prestance, avec sa qualité, sa capacité d'atteindre vite l'objectif, etc., etc. Eh bien, le cheval fier et impétueux qu'utilisaient les rois a été remplacé pour Jésus par un ânon qui a doucement et tranquillement amené le roi à destination de la ville sainte, là où il devait donner sa vie pour nous. Donc, voilà, ton roi vient à toi plein de douceur. Lorsque Jésus s'est présenté dans ce monde, c'était absolument rempli de la douceur de Dieu pour nous. Si Jésus n'était pas venu avec de la douceur vers nous, mais l'immensité de nos péchés l'aurait immédiatement fait se mettre en colère contre nous. Mais ce n'était pas son but en venant vers nous, c'était de nous sauver et donc de nous présenter le caractère d'amour de Dieu qui passe par la douceur. Dans tous ses rapports avec les Juifs, Jésus était plein de douceur, alors qu'il était contesté en permanence. Il était outragé en permanence, son père était outragé en permanence, et lui restait dans la douceur. Bien entendu, il y a eu cette exception, qui est d'ailleurs assez difficilement représentée lorsqu'il y a des films sur la vie de Jésus, cette exception lorsqu'il est entré dans la maison de son père, chez lui, et où il y a trouvé le trafic. Là, Jésus a montré ce qui est son droit, c'est-à-dire qu'il ne supportait pas que soit installé dans la maison de son père ce trafic, ce mensonge, cette corruption, etc. Et là, il a chassé les marchands du temple avec non pas un bâton comme on le représente souvent, mais simplement il a fait des tresses avec une corde pour chasser les animaux du temple. Il n'a pas, dans la description de l'évangile, pris un bâton et cassé les tables. Il a renversé les tables des changeurs. Mais il y a quand même une nuance dans la manière de représenter cette colère de Jésus. Alors, bien sûr, Jésus qui vient devant nous avec douceur, peut inviter tous les déçus, tous les découragés, tous ceux qui sont chargés à venir à lui. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je suis doux et humble de cœur. C'est celui qui est l'homme au cœur brisé qui a été mis à mort. Jésus-Christ, homme de douleur habitué à la souffrance. C'est la première chose. Connaître véritablement Jésus, avoir une relation avec Jésus, qui est celui qui est rempli de la douceur de Dieu pour nous. La deuxième façon de laisser ce caractère de douceur nous imprégner, c'est d'apprécier la parole de Dieu. C'est de la lire, la méditer comme ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un délice. Déjà, le psalmiste pouvait exalter les jugements de l'Éternel qui sont, dit-il, plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et je rappelle ici que le miel était véritablement la confiserie de l'époque. La sucrerie n'existait pas sous les formes actuelles. Toutes les usines à bonbons n'existaient pas. Donc, celui qui avait accès au miel avait accès à la douceur qu'il y avait aussi dans quelques fruits. Mais voilà, le palais n'était pas comme le nôtre, habitué à toutes les sucreries. Et lorsque l'apôtre dit « ta parole est plus douce que le miel, tes jugements sont plus doux que le miel », eh bien, il exprime vraiment quelque chose de très fort une expérience qu'il connaissait. Et donc, dans la méditation sur la parole de Dieu aussi, du psaume 119, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Pourquoi l'apôtre Jacques nous exhortera à recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Si nous avons la douceur dans la bouche, nous avons la douceur dans le cœur. Ça va nous gagner. Le cœur va se réjouir. Le cœur va entrer lui aussi dans cet esprit de douceur. Et si les paroles de Dieu sont douces à votre bouche, si vous pouvez les prononcer devant Dieu comme un aliment que vous n'avez pas seulement ingéré, mais qui a laissé vraiment, qui vous imprègne de sa saveur, alors la douceur va vous gagner. En vous délectant de la parole de Dieu, l'esprit de douceur du Seigneur va vous gagner et imprégner toute votre vie. Alors votre attitude sera douce, comme l'apôtre Jacques le recommande également. Vos réponses aux arguments des détracteurs seront doux, comme Pierre nous le demande. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts, sanctifiés dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je sais comment, pour l'avoir expérimenté, je sais comment des joutes oratoires, des polémiques, des controverses peuvent facilement dégénérer. Et même pour défendre la parole de Dieu, nous pouvons en venir à être agressifs. Or, ce n'est pas cette façon que le Seigneur veut que nous employions sa parole, avec fermeté parfois bien sûr, mais dans un esprit de douceur, nous dit l'apôtre. Vous progresserez en intelligence, et un proverbe qui nous dit, donc au chapitre 16 des Proverbes, verset 21, que celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Vos relations seront excellentes. Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Vous vous réjouirez aussi de louer Dieu. D'autres passages du Nouveau Testament nous disent les mêmes choses. Ce sera doux pour vous que de louer le Seigneur. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de fondamental, sur le but que vous poursuivez dans la vie. Il y a dans le livre des Juges, au chapitre 9, un épisode intéressant avec une métaphore qui est employée. C'est une question de prise de pouvoir, en fait. Jotham fut informé donc de ce qui venait de se passer, c'est-à-dire que Abimélech donc vient de faire, on peut dire, une sorte de coup d'État. Hein. Et ils vinrent et proclamèrent roi Abimélech près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier « Viens toi, règne sur nous ». Mais le figuier leur répondit « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne « Viens toi, règne sur nous ». Mais la vigne leur répondit « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens toi, règne sur nous ». Et le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Je trouve cette parabole absolument parlante. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Qu'est-ce qui est précieux à vos yeux? Avoir un poste, une autorité, une place en vue, ou développer le caractère de Christ et laisser place aux fruits de l'esprit? Si vous cherchez une domination dans ce monde, vous allez nécessairement entrer dans la compétition, dans le conflit, dans les choses qui sont plus ou moins marquées par la brutalité, la violence. Et pour le buisson d'épines, en tout cas, c'est vraiment, ça menace. Il veut non seulement régner, mais il menace immédiatement que si l'on ne se soumet pas à son autorité, eh bien, il va brûler, il va détruire. Tandis que le figuier connaît la valeur de son fruit et il se réjouit de pouvoir produire ce fruit. Et il n'est pas prêt à renoncer à ce qu'il a d'excellent pour aller entrer dans un esprit de compétition, de domination sur les autres. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous demande dans ce monde, d'être là pour porter le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous n'allez pas renoncer à cela, vous n'allez pas renoncer aux fruits de l'esprit pour aller vous imposer et trouver une place en vue dans ce monde. Voilà ce qui est en jeu. Être dans l'esprit de Jésus-Christ, et lui saura bien nous donner la place qu'il veut dans la société et dans toutes les relations que nous devons avoir. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est le résumé que je peux faire avec l'apôtre concernant ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, personnellement, je demande à Dieu que la douceur de Jésus-Christ prévale dans votre vie. Et si parfois vous êtes contraint à sortir un peu de cette douceur, eh bien que très vite vous puissiez y revenir et vraiment vous en imprégner pour rester dans ce que Dieu a prévu pour vous et vous préparer ainsi au véritable royaume où là, aucune violence, aucune brutalité, aucune chose mauvaise n'existeront. Amen.